ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale que nous vous proposons. Benoît Petit est bien là, dans le studio,
soyez
rassuré, mais de l'autre côté du micro. Et c'est moi, Thibaut de Tuile, qui l'interrogerai. Donc bonjour Benoît, bonjour, bonjour.
Oui.
Parce qu'au fond, Benoît, c'est vrai, en quoi croyez-vous? Aujourd'hui, vous lancez votre cinquième saison, c'est la première d'une nouvelle série de 44. Vous avez fait parler beaucoup de personnes remarquables depuis 4 ans, mais
pendant le Covid, il n'y en avait pas 44. Mais
oui,
ils ont eu le droit de venir ici à des sauf-conduits.
Vous avez un hygostat.
C'est très important.
Mais et vous, quelles sont vos convictions? Quelle est votre foi? Et puis, peut-être, j'aimerais commencer par là, pourquoi est-ce que vous avez voulu cette émission?
D'abord, j'ai dit non à Yannick. Merci Yannick, parce qu'il y a presque 10 ans, il m'a dit, pour venir à la radio, moi j'étais à l'époque maître de conférence à l'université, devoir de réserve, j'en parle à Françoise, mon épouse, c'était un petit peu scabreux, et puis je crois vraiment à un travail sur les ondes pour pacifier notre société, et puis j'ai des comptes à rendre avec moi-même, et puis avec, disons, avec l'église institution, et avec... cette exigence de faire la vérité. Alors, j'y arrive pas toujours, et surtout que je suis un peu schizophrène. Je sors de chez mon psychologue.
Et donc cette émission, vous la vouliez
pour
pacifier la société.
Je pense qu'il y a un rôle quand je fais venir des personnes de toute conviction qui disent en quoi elles croient, et moi je me présente systématiquement, c'est malheureusement pas assez dit, comme un sociologue agnostique qui joue la neutralité axiologique. Bon, c'est des grands mots, mais parce que je pense que la sociologie, elle a de grandes possibilités de rentrer en dialogue avec des théologiens et avec des hommes politiques.
Et si, Benoît, vous deviez vous présenter en un seul mot, un seul, un,
non,
ce serait sociologue ou chrétien?
Mais non, ça c'est un faux problème. On me l'a reproché il y a 40 ans quand je travaillais sur les vaches en Allemagne de l'Est et en Pologne, tout en disant que j'étais chrétien marxiste. Bon, voilà. Et puis après, on a dit que j'étais honnête lorsque j'ai défendu une thèse sur la hiérarchie des valeurs.
Donc c'est pas où, c'est et?
Oui, absolument. Parce que justement, il y a la raison et la foi. Je ne vais pas citer Thomas d'Aquin. Et puis, il y a aussi le rabbin Yeshua de Nazareth qui me demande... Pour toi qui suis... Alors vous allez me faire pleurer, mais ce n'est pas l'objet.
Non.
Donc c'est un vrai problème où je suis renvoyé à moi-même et donc je m'amuse. Non, je dialogue avec des autres et je leur demande la même chose que ce que vous me demandez. Il y a des personnes qui pleurent. De l'émotion.
Vous produisez une émission où vous êtes à la fois le sociologue et le chrétien.
Je ne peux pas éradiquer le fait que maman m'a appelé Benoît. Ensuite, elle avait 3 sœurs religieuses et 2 oncles chanoines à Bourges. Et moi, j'aurais pas dû naître. Alors, je vais vous dire comme
Job... Vous n'auriez pas dû naître. Alors ça, effectivement, pour la psychanalyse, c'est intéressant.
Peu importe. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère.
Ouais.
Nu, je retournerai à la terre. Le problème de la sexualité depuis tout petit a pour moi été un gros problème. Pour ça que j'ai pas pu m'engager dans la prêtrise ou dans les ordres religieux à 22 ans. Donc c'est aussi un long cheminement, mais que je reconnais. Et je suis heureux de cette famille chrétienne qui m'a transmis des valeurs, disons, centre-droit. Mon père était... C'est lui qui distribuait la distribution de la lecture des textes à l'église.
Ah oui.
Et puis ma sœur était enfant de chœur à l'époque où ça posait pas de problème.
Donc vous dites quand même, vous êtes quand même une famille très pratiquante.
Très pratiquante.
Et donc c'est bien ça qui vous a porté, qui vous a inspiré, qui vous a amené jusqu'au petit séminaire et puis aux marches du grand séminaire.
Absolument. Et okay. Avec une
vous
grande...
Vous avez tout ça en vous aujourd'hui.
Pardon.
Et vous avez tout ça en vous aujourd'hui.
Absolument. Et je ne regrette rien, comme dit l'autre. Mais en même temps, pourquoi Vatican II, nos prêtres déoniens, les pères du Sacré-Cœur de Jésus, une filiale des jésuites, nous disaient, mais on vit la pauvreté et l'obéissance, mais on a des femmes de ménage et des cuisinières. Et donc, je suis parti avec un ami diacre vivre en ville, avec des étudiants de sciences économiques et de sociologie, pour savoir ce que c'était que la vie des gens, et non pas être sans cesse des assistés de l'église-institution. Et en même temps, le chanoine de Hon, c'était celui qui allait vers les ouvriers. Mais en même temps, il était extrêmement antisémite au temps du Concile Vatican I, qui était parmi ceux qui disaient « l'Église est infaillible ». Et donc moi, je suis passionné de théologie et d'histoire de l'Église. Et après, moi qui étais un cathoréac, et en même temps qui était confronté à des marxistes, je me suis rendu compte que pourquoi ne pas aller voir en Allemagne de l'Est, puisque j'étais germaniste,
oui.
Latin grec, j'ai eu une mention au bac, mais c'était en 68, on l'a donné à tout le monde, pardon. Grand séminaire, entre-temps une année dans la noviciat à Amiens pour justement être prêtre du Sacré-Cœur missionnaire. Et c'était formidable cette année-là, on était une dizaine.
Et pourquoi vous n'avez pas franchi la marche d'après alors ?
Ah bah d'abord, j'ai étudié en sociologie Freud et la sexualité.
Au séminaire ?
En même temps. On avait un consortium avec toutes sortes de confréries religieuses où on se retrouvait le samedi dimanche pour faire de la théologie. Pas de l'exégèse vraiment, mais j'allais avec les dominicains des Combes écouter des sociologues de très haut niveau, et j'étais passionné de tout ça. Et comme bien sûr j'avais ni femme ni enfant, j'avais le temps libre. Et puis je me suis dit, il y a un ami dominicain, Jean-Claude Sagne, qui m'a dit, j'étais objecteur de conscience insoumis, hein. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu me prendre à l'université avec une thèse en Sorbonne, ça faisait mal, quoi. Mais il dit, va à Paris avec monsieur, je ne retrouverai pas son nom,
c'est
qui était spécialiste des kibbutz, des coopératives agricoles polonaises et françaises, et j'ai fait une thèse en sociologie sur la solidarité, rendre la charité technicienne.
Et c'est pour ça que vous êtes parti en Allemagne, pour expérimenter ça ?
Au ras des pâquerettes, comme dirait notre ami à Radio Présence. Parce que j'avais raté, fausse couche, une thèse de sciences éco. On n'avait pas le droit, mais on pouvait quand même faire deux thèses en même temps.
Oui.
Et j'étais passionné d'écriture, oui. Alors que j'étais nul au petit séminaire, et que mon père disait toujours « tu termineras à casser des cailloux ». Et on ne va pas payer quand même le petit séminaire pour toi alors que tu ne travailles pas à l'école. Et après, au moyen séminaire, je lisais de la littérature avec la lampe de poche au réfectoire pour pas qu'on me voie. Parce que tout d'un coup, ça a explosé.
Ça a explosé à ce moment-là.
J'ai eu vraiment envie. Et alors, j'avais donc en sciences économiques un professeur qui était stalinien, un autre qui était PCF, un autre qui était maoïste. Et moi, j'étais chrétien marxiste et je ne savais pas ce qu'il fallait que je sache. Comme tel ou tel de mes amis.
Comment est-ce que vous pouviez déjà vous définir comme chrétien marxiste alors que vous sortiez à peine d'une famille qui était un peu conservatrice ?
Mais si, parce que. Je tue mon père. Et je tue aussi les. J'ai pas eu qu'un père. J'ai eu beaucoup de prêtres, dont le père Jean Leclerc, dont le père François Perroux, tous des hommes extrêmement équilibrés. Il n'y a jamais eu de problème de sexualité. Enfin bon, j'en sais rien, il y a peut-être eu, mais moi, je ne peux pas le savoir. Et donc, étudier
entre ces trois profs,
en donc. Pologne le rôle de l'Église, j'ai fait une enquête avec 200 interviews, et le biais cognitif, c'est si je demande à une bonne sœur à Cracovie de demander quel est le rôle de l'Église, qu'a dit le pape au dernier quand il a fait son sermon à Częstochowa. Et quand je demande à des étudiants marxistes de Varsovie qu'a dit le pape, il y a un biais cognitif parce que la personne qui va répondre dit « qu'est-ce que l'étudiante ou qu'est-ce que la bonne sœur veut que je réponde ?» Et quand j'écrivais au cardinal de Varsovie pour demander l'autorisation de faire une enquête, pareil aussi à Monseigneur Marx à Berlin pour faire une enquête aussi concrètement, j'étais surveillé par la Stasi et par les renseignements. Et puis ça ne me dérange absolument pas. Donc j'étais passionné parce que je voulais aller de l'autre côté du mur et je pouvais y aller. Sauf que je devais payer 50 Deutsche Mark quand j'étais étudiant, mais j'étais logé nourri. Et comme j'étais vacataire à l'université de Lyon, Eh ben,
déjà à ce moment-là,
j'étais à Lyon, vacataire. Mais oui, en faisant la thèse. Mmh. Et il y avait un prof de sociologie de l'éducation, que je ne nommerai pas, qui m'a dit « Ah, mais monsieur Petit, j'ai pas envie, je n'ai pas l'habitude d'avancer l'épée dans les reins. » Je venais, mais moi j'ai une thèse, je voudrais être maître de conférence. Mmh. « Ah ben non, parce que t'as pas le profil. » Et j'ai su après que, 3 ans plus tard, il plaçait son fils qui était en train d'écrire une thèse, ce qui est logique. Bon, j'ai pas de ressentiment, j'en ai rien à faire, je ne regrette encore une fois rien.
Comment est-ce que vous êtes arrivé à Lyon alors?
Eh bien, parce que le grand séminaire des prêtres déoniens, il était à Lyon. Il y avait le petit séminaire à Raon-l'Étape, et puis il y avait le grand séminaire à Lyon. Et moi, je faisais Lyon-Paris toutes les semaines en passant par Dijon, par le train de nuit, pour avancer dans cette thèse sur les coopératives agricoles. Et après, j'ai fait aussi l'HDR, une habilitation, une deuxième thèse, diriger des recherches. Pour chaque fois, j'étudiais l'espace rural de l'Allemagne de l'Est. Alors, le rôle des maires dans les communes rurales. Pourquoi j'étudie les poissons? C'est parce qu'on me demandait chaque fois quel est le thème pour revenir l'année prochaine. Il y avait moins de profs allemands qui venaient en France que de Français qui voulaient aller en RDA. J'étudiais les poissons parce que si j'avais dit « je viens étudier l'écologie », on ne m'aurait pas donné mon passeport. Oui, oui. Mais comme c'était le principal sport, alors j'étudiais de manière cachée, à travers les poissons. Et c'était à Wittenberg où j'ai découvert Luther, parce que c'était la fac de théologie financée par le gouvernement marxiste. Les théologiens comptaient les poissons pour montrer à ceux qui le souhaitaient ou qui voulaient le reconnaître qu'il y avait autant de pollution en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest. Donc, vous voyez, ma vie était passionnante.
C'est ce qu'on appelle la sociologie rurale, alors, c'est ça?
J'étais en sociologie rurale avec Placide Rambaud, dont j'ai oublié le nom tout à l'heure, mais c'était un grand dominicain défroqué, ce qui n'empêche pas...
D'être un grand esprit.
Un grand bonhomme. Et donc, Luther, j'ai commencé à comprendre les indulgences et le fait qu'à Wittenberg, Luther avait accroché ses fameuses thèses. Et je connaissais mieux le marxiste que les profs marxistes à qui je demandais ce qu'il y avait dans le Capital de Karl Marx. Donc pour moi, il n'y avait aucun problème de pouvoir lire la Bible, mais en allemand, et de chanter les psaumes en polonais, parce que je commençais à comprendre le polonais en comparant ce que je savais des psaumes par cœur.
Oui.
Et ce que je lisais dans le bulletin des prêtres déoniens de Varsovie ou de Cracovie. Ma vie était passionnante. Sauf que j'avais un gros problème, c'est la sexualité. Mais bon, tous les hommes, je pense, ont des problèmes avec...
Mais pour en revenir à Lyon, vous nous faites un petit cadeau, là, parce que vous êtes venu avec une surprise pour les auditeurs. Vous voulez nous parler de Camus, je crois. Vous aimez bien les Camus.
Camus.
Les Camus.
Les Camus, c'est mon épouse, François, je remercie ici, qui m'a dit, mais toi, c'est les Camus, et ça va me faire pleurer.
Alors pourquoi c'est les Camus, vous, c'est les Camus? Alors qu'est-ce que vous aimez dans cette révolte? Qu'est-ce qu'elle vous inspire?
La justice.
La justice.
Le fait que le travail mérite salaire, et le fait que... on va parler des dorures de l'Église. Moi, ça me fait pleurer de voir qu'on a besoin de dentelles. Et j'étais, il n'y a pas longtemps, dans une messe à domicile, comme on dit, avec Annie et bien d'autres, qui a été filmé, je ne le regrette pas. Et je pense qu'il y a un vrai problème liturgique, mais j'aime beaucoup Lisier avec qui on discute.
Il y a une question, en tout cas, il y a une question liturgique, c'est une évidence pour tout le monde.
Alors, si j'étais au Gabon ou si j'étais au Sénégal, et puis voilà, et en Allemagne de l'Est et en Pologne, donc pour moi, je suis un sociologue, je compare. Ce qui ne m'empêche pas d'être ému à certains moments. Mais à certains moments, je fais chanter des gens dans l'église et 2 fois, ça m'arrivait de pleurer. D'être incapable de chanter. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'ai tant d'émotions? Ce qui ne m'empêche pas d'être rationnel quand je suis sociologue. Et de provoquer les invités et de choisir, d'essayer d'avoir autant de dames que d'hommes.
Oui.
Et puis de leur poser des questions qui parfois les stabilisent, mais qui, je pense, leur fait plaisir, surtout des personnes qui n'ont pas l'habitude de parler à la radio.
Cher Benoît, on assiste en direct à ce qui fait quand même, je pense, votre plus grand charme, c'est-à-dire votre capacité à digresser. Donc on va revenir à cette petite pause musicale, ce qui va nous permettre de nous remettre de nos émotions. Nous écoutons les Canus, chantés par Yves Montand.
Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grande la terre, et nous, pauvres canuts, sans draps, on nous enterre.
Voilà, nous reprenons le cours de cette émission. Nous retrouvons donc Bon Appétit interrogé à contre-courant dans sa propre émission. Ma foi, j'y crois. Une émission, donc c'est votre cinquième saison. 4 années déjà écoulées, 44 émissions à peu près, plus ou moins, avec cette parité à laquelle vous tenez. Pourquoi est-ce que vous tenez à cette parité des invités, Benoît ?
Ben, les femmes sont l'avenir de l'homme et puis c'est la moitié de l'humanité. Et je pense que dans l'Église, comme l'a dit notre ami Marc, fils de prêtre, il y a un débat. Et alors, ce n'est pas résolu chez nos amis protestants où il y a des diacres, des diaconesses et des pasteurs et pasteureux. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a des soucis. Mais si ma femme Françoise était ici, elle pourrait vous citer le Concile d'Autun. Et le fait que Rome a imposé le célibat des nonnes et des moines au-delà de la Grande-Bretagne au VIe siècle. Et il y avait un vrai débat. Alors, de toute façon, si je compare avec les moines en Inde ou avec le fait que chez nos amis musulmans, c'est pas très simple, chez les soufis, cette question de la chasteté ou de la continence. Alors, c'est pour moi une question que j'essaye d'étudier de manière rationnelle, froide, tout en sachant que je ne suis pas objectif, que
non,
j'ai mon histoire,
jamais.
Mais personne n'est jamais
personne
objectif.
N'est objectif.
Alors, mon ami rabbin, je ne vais pas dire lesbienne, mon ami pasteur homosexuel pose à leur manière, ou d'autres ne le font pas, leur coming out. Et j'ai aussi à interroger mon fils qui est malade et qui se drogue. J'ai aussi à admirer ma fille qui a 2 petits-enfants et qui ont une autre image de la famille et de la maternité. Mais je ne peux pas ici en 2 minutes répondre. Je crois que nous avons interrogé François Maréchal, nous avons interrogé plusieurs personnes ici qui ont dit tout simplement comment ils vivent avec leur ambivalence.
Interroger, c'est le mot. Pour vous, le questionnement, au fond, c'est une vertu. Et c'est pour ça que dans ce rôle d'animateur d'une émission, vous êtes tellement bien à votre place, parce que vous questionnez.
Oui, et chaque fois je suis admiratif, ça me demande beaucoup de préparation. D'abord, c'est pas seulement les coups de fil, d'arriver à trouver que Christophe soit disponible en même temps. C'est un billard à 4 bandes, hein, chaque fois.
Christophe,
je suis content
Christophe,
quand c'est fini.
Pour les auditeurs.
Christophe, c'est celui qui les enregistre.
Voilà, qui fait la
technique. Une patience formidable.
Oui.
Je demande à chacun 2 minutes de musique, parce que ça permet de faire une petite pause,
oui,
et une photo qui permet de visualiser. Alors,
toujours.
Ça peut être un avion, une fleur. Je voulais dire que tout homme est une histoire sacrée, et c'est chaque fois pour moi une admiration. Alors Dieu, dans tout ça, vous allez me dire, cher Thibault, c'est un mot à 4 lettres. J'interroge des libres penseurs, autre mot pour dire franc-maçon, que des communistes ou des athées, parce que pour moi, je ne sais pas, comme sociologue, ce que signifie ce mot.
Je vous ai entendu dire « Dieu est un mot vide ».
Non,
c'est
une lettre à quatre, un mot à 4 lettres. Un mot vide, c'est un mot valise.
Un mot valise.
Chacun met des... comment on dit, Abraham a tué les idoles et Mohamed a tué, a cassé les statues. Et nous sommes le discours apophatique de nos amis Starès.
Attention, vous utilisez trop de gros mots là.
Non, ça veut dire qu'on ne peut rien dire sur Dieu, que le silence. Mais pas comme Monseigneur Sarah, je suis désolé, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ma théologie, mais j'aime beaucoup quand il dit le silence. Par contre, de se tourner vers Jérusalem au moment de l'élévation, que Jésus soit ressuscité, c'est pour moi un problème. Je ne sais pas, comme sociologue, mais s'il n'est pas ressuscité, ma foi est vide. Or, je recherche sans cesse foi et doute, c'est les deux faces d'une même médaille. Oui. Et si je pense qu'il n'y a plus un cadavre sur le bois de la croix, ça veut dire que Jésus est vivant, il n'est plus sur le crucifix. Mais je comprends que des gens veuillent mettre des milliers de centimes pour refaire un crucifix, comme dans certaines paroisses. Je ne compte pas pour qui je suis. J'essaye de voir pourquoi des gens vont arriver à se battre et à tuer au nom de Dieu. Ben bon, donc ma mission, je veux dire, je crois qu'il y a un rôle à jouer de cette radio chrétienne, ou plutôt œcuménique, à donner la parole et à faire en sorte que les gens se comprennent un peu mieux, parce qu'on met des étiquettes sur des boîtes de conserve.
Et en tant que sociologue, justement, ça m'intéresse de vous entendre. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui comme diagnostic sur la capacité de notre société à dialoguer ?
Ben, je trouve que c'est formidable, la croix. Je trouve que dans l'humanité, il y a des dialogues. Je crois que sur Arte, ils ont fait parler des techniciens et des scientifiques. Après, je ne sais pas ce que je peux dire sur le cosmos, Dieu dans les étoiles.
Sur les gens qui nous entourent aujourd'hui autour de vous. Est-ce que vous trouvez...
Je vois à Radio Présence que nous avons un étier qui brille. Au ras des pâquerettes, plein d'émissions. Et moi, j'ai ma petite tâche, j'ai ma petite place. Je ne ferai pas comme un certain frère dominicain, parce que ce n'est pas non plus mon approche de la foi et de l'Église,
oui,
mais nous sommes complémentaires peut-être, s'il y a un seul Dieu.
D'un côté,
c'est
il y a
même pour tout le monde.
Une profession de foi et puis un dialogue autour de la foi.
Ouais,
il en faut pour tout le monde.
Plusieurs lectures du Notre Père. Remets-nous nos dettes, le problème de péché, de la faute ou du crime. Ça veut dire quoi, remettre, pardonner? C'est pour moi un problème jusqu'à la fin de ma vie. Et la question aussi que l'on peut poser de « Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre », pour moi est une question avec les cosmonautes. Avec ceux qui, comme je l'ai dit à Gagarine, c'est pas lui que j'ai dit ça, mais à mes amis marxistes, ils sont assez ridicules pour ne pas avoir vu dans le cosmos, mais Dieu il est ailleurs, il est au plus profond de moi. Et quand j'écrase une hostie à la Révolution française en disant « Regarde, je suis pas mort », vous savez pas ça? Ils ont ouvert le tabernacle, ils ont balancé les ciboires, ils ont marché sur les hosties et ils sont pas morts, ces pauvres matérialistes. C'est pas parce que... Vous voyez, on a besoin de miracles. Le miracle, c'est les soufis qui font le pèlerinage de Mantes-la-Jolie jusqu'à Mbourg. Et les miracles, c'est quand on guérit de la lèpre et j'en reviens à Job. Pourquoi es-tu lépreux? Alors, on va avoir les quatre sages qui dialoguent avec Job. Et il dira, mais qui suis-je, moi, pour dialoguer avec Dieu? Regarde la petite pâquerette. Regarde comment la vache m'ébat. Et regarde cette nature, et qui suis-je moi pour dialoguer avec Dieu? Dieu a donné, qu'il soit béni. Dieu a repris, qu'il soit béni. Que je puisse louer Dieu dans ce qui m'arrive. Quand les limaces et les escargots mangent mes plants de tomates, je ne suis pas content. Eh bien, je pense à Job. Vous voyez, cher Thibault, parce que la vie de la foi, c'est dans ce dialogue permanent avec ma conscience, avec mon passé, avec toute ma culture.
Dialogue non pas sans une petite dose de provocation.
Et d'humour.
Ben,
si
et
on,
d'humour.
Ben, le nom de la rose, on ne va pas aller chercher... Je compare les lectures de Joseph, Youssef dans le Coran, et le Pharaon. C'est passionnant. Et pourquoi dans le Coran, ils ont oublié de dire certaines choses? On ne parle pas des mamans de Joseph et surtout de la belle-mère de Joseph. C'est-à-dire qu'il y avait Benjamin et Joseph, n'est-ce pas? Mais il y avait aussi tous les demi-frères. Et alors pourquoi on ne parle que Abraham et de sa deuxième femme et de ses concubines? Ah non, Abraham, ah non, c'était pas un patriarche. Alors, lisons le rôle des matriarches dans la Bible, et ça va nous permettre d'avoir un petit peu de distance. Je préfère Madame Lecu, qui parle avec des détenus sur « Dieu a couvert ma honte ». Mais voilà, ça me parle quand je discute avec des aumôniers et aumônières de prison. Et nous avons fait parler dernièrement quelqu'un qui était l'observatrice des lieux de privation de liberté. Donc ça, c'est un engagement. Je fais parler mon cousin Friot, qui n'est pas tout à fait d'accord avec l'actuelle réforme des retraites, parce qu'on scandaleusement, on modifie le Conseil national de la résistance par un autre mot que je refuse et je crache sur ce mot-là. Donc là, j'ai des moments d'émotion et des coups de gueule. Mais en même temps, j'essaye de prendre, pardon, un petit peu de distance. Non, mais il y a des scandales.
Tous ces gens que vous recevez, ils ont une foi.
Ah, ils croient en quelque chose, sinon ils ne viendraient pas. Et ils veulent communiquer que peut-être la vie peut être meilleure. Et qu'on peut dialoguer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on ne veut pas. Je regrette de mettre une étiquette sur ces personnes-là. Elles devraient parler, mais elles ne peuvent pas ne pas dire qui elles sont.
Vous êtes là pour servir leur parole. Et c'est ça, au fond, votre rôle.
Oui.
C'est de servir la parole de ceux qui croient en quelque chose pour nous ouvrir, pour nous écouter.
Donc. Alors parfois je l'interromps trop et d'autres fois je les laisse parler, mais quand c'est quelqu'un qui a du mal à parler et qui passe par une autre personne, parce que, eh bien je suis content parce qu'elle ose parler devant un micro.
Merci Benoît Petit.
Merci
à vous de continuer encore pour une nouvelle saison cette émission tellement spéciale à notre antenne et à laquelle on tient tous. Vous nous avez préparé une dernière petite surprise pour nous quitter en musique.
Le psaume 33 quand même, je bénirai le Seigneur en tout temps.
Le psaume 33.
Sa louange sans cesse à mes lèvres, magnifiez avec moi le Seigneur. Les musulmans, ils disent l'enseigneur, celui qui enseigne et qui me fait aller jusqu'au profond de mon âme, là où j'espère trouver la paix et la communiquer aux autres. Amen.
Amen. Merci Benoît.